Le point.
Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité, puis débattons avec un invité.
Dans la première partie de cette émission, enregistrée juste après l'attentat de Nice, nous évoquons les récentes attaques islamistes qui ont frappé la France et les cascades de lâcheté qui ont pu y mener. Puis nous discutons avec la journaliste et intervenante en éducation populaire Nora Hammadi des banlieues du séparatisme islamiste en France.
Bonjour Peggy.
Bonjour Laetitia.
Aujourd'hui, nous avons décidé de parler des récents attentats islamistes en France, c'est-à-dire celui du vendredi 16 octobre où le professeur d'histoire Samuel Paty a été décapité par un terroriste et celle du jeudi 29 octobre à Nice où trois personnes sont mortes lors d'une attaque au couteau. Peggy, je te laisse introduire ce sujet difficile.
Donc effectivement, comme tu le rappelais, le 16 octobre, Samuel Paty, donc qui était professeur d'histoire-géographie au collège Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, a été assassiné et décapité en pleine rue par un homme de 18 ans, Abdullah Anzorov, qui était tchétchène, né à Moscou et vivant en France avec le statut de réfugié depuis l'âge de 6 ans. Et donc, comme beaucoup le monde, cet attentat nous a énormément choqués. Et dès le lendemain, tu m'as envoyé un message me disant que ce qui te sautait aux yeux dans ce drame, c'était toutes tes petites lâchetés qu'il avait rendues possibles. Et effectivement, des lâchetés, il semble en avoir beaucoup. Le 17 octobre, il était révélé dans la presse, et notamment dans Le Point, que les agents locaux du renseignement territorial 78 avaient envoyé à leur hiérarchie une note. Donc ce document était intitulé « Incident en lien avec les principes de laïcité au sein du collège Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine ». Et donc le document faisait état d'un conflit couvant au sein de l'établissement où enseignait Samuel Paty depuis le 6 octobre. Et donc le 6 octobre, c'était la date à laquelle il avait dispensé un cours sur la liberté de la presse dans le cadre du module d'éducation civique et morale et montré des caricatures publiées par Charlie Hebdo. Donc toujours selon la note, il y a une mère d'élève qui aurait contacté le lendemain la principale en affirmant que sa fille avait été mise à l'écart car musulmane. Une réunion est organisée entre l'administration du collège, la famille de la jeune fille et le professeur qui est invité à s'excuser s'il avait été maladroit, donc là c'est entre guillemets, ce qu'il fait. Mais la situation continue à s'envenimer avec la publication de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Dans l'une, on voit un homme qui se présente comme un père d'élève et qui affirme que le professeur a montré à sa fille l'image d'un homme nu, qu'il a demandé aux élèves musulmans de lever la main et de sortir de la classe et qu'il est un voyou qu'il faut faire cesser. Donc là, je cite cet homme. Si vous voulez qu'on soit tous ensemble et qu'on dise stop, ce voyou ne doit plus enseigner à nos enfants. Donc dans une autre vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux, il y a l'élève qui est censée être la fille de cet homme qui livre son témoignage, donc qui confirme ce qu'elle a dit à son père. Et pendant ce temps-là, la boîte mail de la principale se couvre de messages de parents indignés, dont l'un qui dit entre guillemets, face au climat actuel de la France où un climat d'islamophobie s'est installé, pourquoi cherchez-vous à diviser dès le plus jeune âge ? Donc là, la hiérarchie de la principale décide de mandater sur place le vendredi 9 octobre. Un inspecteur de l'équipe Laïcité et Valeurs de la République, afin notamment de rappeler au professeur, entre guillemets, les règles de laïcité et de neutralité. Ensuite, le 20 octobre, c'est un des articles qui m'a le plus stupéfaite. C'était sur France Télévisions, donc le 20 octobre, qui raconte en fait. Donc Samuel Paty a été convoqué au commissariat parce que les parents d'élèves, dont le monsieur de la vidéo que je citais tout à l'heure, avaient porté plainte pour diffusion d'images pornographiques. Donc le professeur d'histoire-géographie est interrogé sur le cours d'enseignement moral et civique. Et là, en fait, donc cet article en fait révèle que ce qu'avait dit la jeune fille et qui avait été relayée par son père était complètement faux. Et c'était d'autant plus faux que en fait la jeune fille n'était pas au cours. Donc elle a menti hein, sur cette base de ce mensonge, toute une chaîne, tout un effet boule de neige de rumeurs s'est mis en place et avec les conséquences effroyables que l'on sait. Et donc voilà, c'était ce point de départ d'interroger, de se questionner sur toutes les petites lâchetés qui ont mené à ça, quoi.
Alors c'est très juste et c'est très bien résumé. Alors je pense qu'on n'est pas là pour jeter la pierre à quiconque et je ne sais pas personnellement comment je réagirais si j'étais liée de près à disons, non pas à l'attentat lui-même, mais à tout ce qui a précédé, puisque c'est ce que tu décris, en fait, l'environnement de l'école, la hiérarchie de l'éducation nationale. On ne fait pas la morale aujourd'hui, mais simplement, on s'interroge, et je m'interroge, sur la façon dont, par son action et même surtout par son inaction, on peut participer à la constitution d'un climat qui, in fine, suscite, crée la violence et la mort. Alors, quand je parle d'action et d'inaction, eh bien, c'est très clair que, déjà, on sait que depuis un certain temps, il y a un certain nombre d'intellectuels ou de personnalités politiques qui, par leurs écrits, se sont montrés un petit peu légers, en fait, dans leur analyse hein, des attentats terroristes et de l'islamisme en général. Et on le sait, c'était avant l'attentat perpétré contre les journalistes de Charlie Hebdo et contre l'hypercacher en 2015, mais aussi après, c'est-à-dire que toute ce courant qu'on appelle de façon un peu peut-être un peu rapide, mais en tout cas assez pratique, l'islamo-gauchisme a pu participer, en tout cas indirectement, hein, à la justification d'un certain nombre d'attitudes, et d'attitudes qui sont clairement anti-républicaines, voire anti-françaises, hein, tout simplement. Mais il y a aussi d'autres choses, et ce que j'appelle l'inaction, c'est le fait de ne pas faire, de ne pas dénoncer, de ne pas aider, et dans des tout petits détails, puisque tu parlais de l'école, j'ai l'impression qu'à l'école, il se passe de toutes petites choses qui, en s'accumulant, créent vraiment de gros problèmes. J'ai lu récemment un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école » de Jean-Pierre Aubin, qui est un ancien inspecteur de l'éducation nationale. Ce livre est extrêmement instructif, en fait, sur la façon dont, à l'école, de petits accommodements, en fait, avec une pratique de la religion musulmane très radicale, de petits accommodements peuvent créer beaucoup de tensions. Mais ces petits accommodements sont acceptés. Ils sont acceptés par certains professeurs, ils sont acceptés parfois par leur hiérarchie. Et on voit bien qu'on ne sait pas comment répondre à ça. Alors, pour préciser, hein, il s'agit d'accommodements, par exemple, à la cantine. Il donne un exemple d'élèves qui se sont mis à manger à des tables séparées, donc les musulmans d'un côté, les non-musulmans de l'autre, des accommodements dans les toilettes où certains musulmans gardaient le robinet pour les musulmans et forçaient les autres à utiliser d'autres robinets. Enfin, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et quand on lit tout ça, on ne sait pas quoi faire parce qu'on se doute bien que les enseignants sont très seuls. Et on se doute bien qu'ils ne savent pas forcément comment répondre. D'un autre côté, on se demande si, en étant unis, et si leur direction était derrière eux, si cet effet de masse, cet effet collectif, n'aiderait pas et n'aurait pas aidé, en fait, à prévenir un certain nombre de dérives. Donc moi, je suis très perplexe, je suis même très inquiète et je dois le dire aussi en ce moment assez très affectée, en fait, par ce qui se passe en France. Voilà, je me demande si il n'y a pas un moyen de créer une forme de courage du quotidien qui consiste à ne plus laisser passer, en fait, la moindre petite dérive.
Tout à fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans la bouche et dans les écrits de Fatia Boudjalat, qui est prof à Toulouse et qui a écrit donc notamment sur le voilement aux éditions du Cerf, et elle a beaucoup tourné sur les médias après l'attentat de Samuel Paty. D'ailleurs, j'étais assez heureuse de ça parce que c'est une femme, je trouve, qu'on n'entend pas, en tout cas à mon sens, qu'on n'entend pas assez, et même si là c'était dans des circonstances tragiques, j'étais vraiment très contente de la voir vraiment présente. Est vraiment considérée comme une voix importante à entendre dans ce contexte. Elle a été l'objet d'un reportage sur Envoyé spécial. Bref. Et donc en fait, ce qu'elle dit, c'est que effectivement, l'un des problèmes fondamentaux, c'est que il y a eu un délitement de l'autorité qu'on peut critiquer beaucoup et sans doute à juste titre. Mais le fait est que dans le contexte de l'éducation, elle a un sens et elle a une fonction. C'est-à-dire qu'une des raisons de l'enseignement, c'est de donner aux enfants et aux élèves, en gros, des armes pour forger un esprit critique, en plus des connaissances. Hein. Là, je parle pour le coup vraiment de la structure de la pensée. Donc, c'est fournir aux élèves des armes pour pouvoir ensuite non pas se retourner, mais justement avoir un œil critique sur l'enseignement de l'enseignant, et là pouvoir le critiquer, mais de manière constructive. Et elle disait, elle a dit souvent que le problème, c'est que on ne comprend pas qu'il y a une phase dans cette construction justement de l'esprit critique où il faut justement avoir un rapport d'autorité et dire moi je sais, toi tu te tais. Donc moi je sais, c'est l'enseignant dire à l'élève ou a fortiori aux parents d'élèves, parce que ça aussi c'est un problème énorme de la pénétration des parents d'élèves dans l'enseignement. Enfin moi j'ai ma mère est prof, elle est en retraite depuis une dizaine d'années et elle me disait qu'elle a vu ça arriver de manière extrêmement rapide en fait. Comment est-ce que en 10-15 ans le poids que les parents d'élèves ont pris dans les écoles et en l'occurrence elle enseignait au collège a été comme une épidémie quoi. C'est la croissance exponentielle de la force que le pouvoir que prennent les parents d'élèves. Pour revenir à cette autorité, je pense que un des problèmes et une des solutions qui serait remettre cette autorité et expliquer que c'est pas un abus d'autorité mais que ce rapport d'autorité, donc moi je sais toi tu t'es, a une utilité et une fonction positive.
Tout à fait, mais encore faut-il que les enseignants et les directeurs d'école et les inspecteurs sachent pourquoi ils font ce métier, et peut-être qu'il y a une ambiguïté aussi. Si on n'est pas sûr de ce rapport que tu décris très bien, de celui qui sait versus celui qui ne sait pas encore, eh bien, on est incapable, en fait, même d'inspirer l'autorité. Je pense même que l'autorité se voit tout de suite chez quelqu'un. On n'a pas besoin de dire qu'on a l'autorité pour l'inspirer. Et ça doit être très, très palpable, en fait, pour certains élèves. Ils doivent tout de suite sentir que certains enseignants n'incarnent pas du tout ça parce qu'ils n'en ont peut-être pas envie. Ou bien qu'ils ne sont pas aidés, qu'ils sont trop seuls. Mais moi, je trouve qu'il y a une forme de flottement, en fait. Par rapport à l'éducation, et ça vaut autant pour ce que tu décris, c'est-à-dire l'enseignement finalement civique, hein, que l'enseignement tout court, puisqu'on sait aussi que la question de l'autorité et celle du savoir a été battue en brèche dans les dernières décennies. Alors, bien sûr qu'on n'enseigne plus aujourd'hui comme dans les années 40, 50 ou avant, hein, où il y avait un rapport très très vertical, mais quand même, dans l'enseignement, il doit y avoir une verticalité. Alors, peut-être que tous ces événements serviront hein, de signal d'alarme d'une certaine façon, et peut-être qu'on va vraiment réfléchir à la façon de repenser la relation entre l'enseignant et l'élève. Mais je t'avoue que moi, je suis assez pessimiste, en fait, sur l'état de l'école, et que je ne sais pas très bien par où il faudrait prendre le problème. Et j'ai aussi l'impression que l'État est complètement démuni. Je n'ai pas l'impression que l'éducation nationale, le gouvernement, la présidence de la République aient la moindre idée de là où il faudrait commencer, en fait, pour s'attaquer au problème. Parce qu'il y a trop de problèmes, en fait, en même temps, sur tous les fronts. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, je parlais de cet héroïsme ou de ce courage du quotidien, parce que je me dis qu'il y a évidemment un travail à faire au niveau des institutions, mais il y a aussi un travail individuel et collectif à faire dans la vie de tous les jours. Alors, ça paraît peut-être un petit peu banal de dire ça, mais moi, je pense que c'est une piste qu'on n'a pas du tout explorée. Et d'ailleurs, je voulais savoir ce que tu en penses de ce concept de courage ou d'héroïsme du quotidien.
Ben, c'est en tout cas eu un concept qui me parle, et ça fait partie des choses pour lesquelles j'aime beaucoup nos conversations, c'est que c'est des choses qui me parlent mais auxquelles j'avais en fait pas pensé spontanément. Et effectivement, oui, ce courage du quotidien, mais c'est plus qu'un concept intéressant, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en pratique et justement apprendre. Et notamment apprendre, voilà, par des postures, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur, en fait, un prof qui a une autorité, tu le sens. Ce sont des facteurs, des traits qui sont très instinctifs. C'est pas le terme, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est là ou c'est pas là, et c'est ce qui fait aussi toute la difficulté de la chose, c'est que comme c'est pas quelque chose qui peut facilement s'inculquer, c'est peut-être quelque chose qu'il faut travailler, je sais pas, peut-être, je sais pas, au niveau du recrutement, je sais pas, faire comme les, comme à l'armée, enfin, je dirais, bien, à l'armée, il y a toute une partie du recrutement qui se fait, justement, sur les aptitudes des gens, enfin, qui ne sont pas justement des connaissances, qui sont des choses beaucoup plus posturales, beaucoup plus comportementales, beaucoup plus liées au tempérament. Est-ce qu'au niveau du recrutement des profs, c'est pas des choses qui sont trop laissées sur le côté au profit de choses beaucoup plus livresques, des choses qui sont apprenables par une formation universitaire entre guillemets classique?
C'est très juste ce que tu dis. Ce que j'aime bien aussi dans ton idée, c'est que c'est très concret, alors que la plupart du temps, quand on parle d'héroïsme, c'est très abstrait, en fait. On sort un grand mot et puis on se met en valeur, mais on fait pas forcément grand-chose avec. Et alors, j'ai un très bon exemple de cette attitude qui est, l'utilisation qu'a faite du terme notre président de la République, donc Emmanuel Macron, qui, en août 2017, avait donné un grand entretien au Point, où il faisait l'éloge de l'héroïsme en politique. Donc, je vais en citer un extrait. Depuis trop longtemps, nous nous sommes résignés à une vie démocratique sans sel. Nous sommes en train de payer le prix de cette bêtise collective qui consiste à croire en la fin de l'histoire, alors qu'elle nous revient au contraire en plein visage. Pour l'affronter, nous devons renouer avec l'héroïsme politique propre au monde républicain, retrouver le sens du récit historique. Notre pays ne propose en effet plus de héros. Pourquoi des jeunes de banlieue partent-ils en Syrie? Parce que les vidéos de propagande qu'ils ont regardées sur Internet ont transformé à leurs yeux les terroristes en héros. Alors, j'ai trouvé cette interview à l'époque, notamment ce passage sur l'héroïsme, très très agaçant en fait, très prétentieux aussi, et d'ailleurs d'autant plus maintenant en fait, avec les 3 ans qui se sont passés depuis, où justement la France est dans une situation tragique historique, ça me semble encore plus creux parce que ce sont des belles paroles, des beaux concepts, mais face à la réalité, nous sommes impuissants, nous sommes désarmés, et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire des choses concrètes, parce que j'ai l'impression que plus on parle de ces choses, plus on a de postures, moins on agit réellement et vraiment, moins on est héroïque. Et en fait, l'héroïsme ne se décrète pas, on peut pas dire qu'on est soi-même héroïque. C'est impossible. Donc, c'est très prétentieux de dire il faut réhabiliter l'héroïsme en politique, parce que ça sous-entend je le réhabilite, finalement. La réalité, c'est que ce sont les autres qui disent d'une personne qu'elle est héroïque ou qu'elle est courageuse. Donc voilà, cette interview m'avait fait l'effet un peu des Fritz McCain, c'est ceux qui en mangent le moins. Non, c'est ceux qui en mangent le moins qui en parlent le plus, ou c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Oui, c'est ça. C'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus.
On va y arriver.
Voilà. Et voilà. Et moi, je trouve ça désespérant en fait qu'on se soit noyé en fait dans une espèce de parole, de commentaires, d'auto-commentaires, alors que la réalité est vraiment tragique. Et je suis pas en train de critiquer la politique du gouvernement face au terrorisme, parce que je pense que notre gouvernement y fait bien face et que nous sommes à la hauteur. Mais je parle de tout ce qu'il y a autour, et je ne suis pas tout à fait convaincue par l'attitude et la réaction du président de la République.
Je suis absolument d'accord, et j'ai pour moi les citations que tu as faites de l'interview, c'est vraiment, enfin, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la substantifique moelle de Macron, c'est-à-dire beaucoup de paroles, beaucoup de décorum, mais vraiment comme un acteur en fait, mais en fait un mauvais acteur. Tu vois les fils, tu vois les costumes, c'est tout est faux, tout est artificiel, donc c'est ça qui est vraiment hyper agaçant, parce que à la fois c'est hyper grandiloquent, c'est hyper grandiloquent, et en fait c'est vraiment la montagne qui accouche d'une souris, quoi. Et T'as mis vraiment le doigt sur le problème de Macron, et en plus et pas seulement Macron, et aussi du gouvernement, parce qu'après l'attentat de Samuel Paty, il y a eu toute la musique, oui, on va restaurer les valeurs républicaines, on va taper du poing sur la table, oui, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Non, mais on va restaurer les valeurs républicaines, on va taper du poing sur la table, oui, d'accord. Et c'était une blague qu'un ami m'a fait, que je trouvais excellente, et c'était, oui, tu vas voir ce qu'ils vont nous faire, c'est à la rentrée, il y a Blanquer qui va dire, oui, alors, à la rentrée, tous les enfants auront un uniforme sur lequel
les caricatures de Charlie Hebdo seront imprimées et voilà, on va taper sur la table, on va taper du poing sur la table, on va rétablir la valeur républicaine. Et voilà, ce genre de... Et c'est, je trouve ça vraiment la blague excellente parce que c'est limite, tu sais, la loi de Poe, donc c'est un truc de la culture internet qui dit que quand t'as pas de contexte, tu ne peux pas faire la différence entre une parodie et un truc réel. Et je crois que malheureusement cette histoire de l'uniforme avec les caricatures de Charlie Hebdo imprimées, c'est limite probable en fait avec ce gouvernement et ce truc de décorum qui n'aboutit sur rien.
Très juste. Et je trouve que c'était très visible aussi dans la cérémonie en hommage à Samuel Paty, qui s'est tenue le 21 octobre à la Sorbonne. Comme tu dis, tout y était, c'est le discours du mauvais acteur, donc le président de la République qui a fait un discours complètement empoulé, emphatique, avec des larmes aux yeux. Alors peut-être que c'est sincère, hein, mais il lui manque vraiment une sobriété, une solennité en fait, qui sont indispensables dans ces circonstances. Et moi, ce qui m'a frappé, alors c'est vraiment un détail, hein, mais c'est que à un moment, ils ont fait apparaître par une projection de lumière, donc le profil de Marianne et Liberté, Égalité, Fraternité, donc sur au fond de la cour de la Sorbonne, et l'écriture, hein, Liberté, Égalité, Fraternité, c'était comme une écriture d'enfant. C'était mal tracé, enfin voilà, c'est une sorte de police qu'on utilise dans certains cas, mais que je trouvais absolument déplacé. Vu les circonstances, c'était complètement enfantin. Et j'étais très gênée. Je n'ai pas compris ce choix. Et j'ai trouvé ça très kitsch. Et en fait, je trouve que tout cela est kitsch. Emmanuel Macron a quelque chose de kitsch. La façon dont nous répondons aux circonstances est kitsch. Et le kitsch, en fait, je reprends la définition de Milan Kundera dans L'insoutenable légèreté de l'être. Le kitsch, c'est la station de correspondance entre l'être et l'oubli. Et je trouve qu'en fait, cette commémoration, c'était un peu ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est avant de mourir, avant d'être oublié, Samuel Paty a droit à une cérémonie qui touche un peu au kitsch, même si par ailleurs, hein, c'était quand même un bel hommage et que c'était extrêmement émouvant et que bon, bah voilà, quand on a une petite fibre patriotique, forcément, c'était un bel hommage, mais il y avait quand même ces éléments kitsch dans cette cérémonie qui m'ont personnellement gênée. Comme si nous n'étions pas à la hauteur de l'événement.
Non, mais effectivement, il y avait un truc super clip avec, je sais pas comment ça s'appelle, genre la perche de la caméra qui faisait le tour. J'en avais parlé avec deux amis. Genre, on se serait cru dans un clip de Kanye West, quoi. Et oui, c'est exactement ce que tu dis, problème de kitsch. Mais moi je pense aussi que c'est justement le problème de tous ces discours et de toute cette position en fait qu'a le gouvernement sur voilà les valeurs républicaines, etc. En fait, ils essaient de remplacer une religion par une autre sans comprendre que en fait la base du problème quand on veut remplacer par une religion par une autre, c'est qu'en fait on renforce la première et justement on ne fait que dévoiler l'artificialité et la faiblesse en fait de la seconde qu'on veut plaquer sur la première, alors que à mon avis mais là bon c'est plus que la laïcarde, c'est la grosse athée matérialiste qui parle. Je pense qu'on ferait mieux en fait de se dire non, on ne remplace pas une religion par une autre, on fait complètement autre chose, et justement il faut mettre l'accent sur le futile, sur et en fait toute l'atrocité en fait de ces attentats, etc., c'est que ce sont des gens individuels qui sont touchés, ce sont des vies individuelles qui se terminent, et essayer de noyer ça dans les grands flonflons républicains et tout, je trouve que c'est comme tu disais tout à l'heure, ça ne rend pas justice au tragique de la chose.
C'est vrai, et sur ces mots fort sages, nous allons passer à la contrariété du jour. Alors, c'est moi qui commence. Alors, on ne va pas vraiment changer de sujet, hein, j'en suis désolée, mais ma contrariété du jour concerne les attentats qui se sont déroulés à Manchester, donc dans la Manchester Arena le 22 mai 2017.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un terrible attentat qui avait fait 22 morts, enfin 23 si on compte le terroriste. On mène en ce moment au Royaume-Uni une enquête sur les circonstances de cet attentat. Il se trouve que il y a quelques jours, un garde de sécurité, le garde de sécurité qui était le proche hein, du terroriste en question juste avant l'attentat, a avoué avoir eu un mauvais pressentiment quand il a aperçu le terroriste, Salman Abedi. On lui avait signalé, donc il était en train de l'observer avec un collègue, et il a expliqué ne pas avoir osé l'approcher par peur d'être accusé de racisme. Et pourtant, le terroriste présumé, hein, à l'époque, avant de commettre son attentat, était en tout cas assez suspect parce qu'il tremblait, il transpirait, il portait un gros sac à dos noir sur son dos. Alors, cette anecdote, je pense, doit être prise avec des pincettes. Et je dirais que j'ai personnellement trois interprétations. La première, que en fait, le garde a dit ça parce qu'il veut trouver une explication au fait qu'il n'ait pas agi. Et c'est l'explication, finalement, qui le compromettrait le moins. C'est parce que j'ai eu peur qu'on m'accuse de racisme, donc je n'ai pas agi. L'autre hypothèse, ce serait que cette personne est manipulée, peut-être qu'il est manipulé par l'extrême droite, et que finalement, c'est une façon d'avancer un agenda raciste, indirectement. Alors, la troisième interprétation, c'est peut-être la plus charitable, c'est de penser tout simplement qu'il dit la vérité. Et si c'était le cas, ça révélerait toute la difficulté que pose le débat qui est assez fort hein, depuis quelques années sur ce qu'on appelle le contrôle au faciès, en fait. Le fait que certaines personnes soient plus contrôlées que d'autres parce que elles ont une apparence, alors en l'occurrence, hein, ce sont plutôt des gens d'origine arabe, maghrébine, une apparence qui les désigne comme des suspects. Alors, bon, je ne suis pas spécialiste de la sécurité, de la police. Je n'ai pas vraiment de point de vue sur la question du contrôle au faciès, au sens où je ne sais pas comment travaille la police. Je suppose quand même que statistiquement, quand on doit contrôler des gens, on est obligé d'utiliser un certain nombre de facteurs. Et parmi ces facteurs, il doit y avoir quand même les statistiques sur les criminels. Et si on suppose que on sait que la majorité des criminels, des terroristes, pardon, sont ont une certaine apparence parce qu'ils sont d'une certaine origine, eh bien, il est possible que ça rentre hein, parmi les facteurs, les critères qu'on utilise pour réaliser un contrôle. Mais finalement, ce qui m'importe le plus dans ce débat et ce qui me contrarie, j'y arrive, c'est que, encore une fois, si tout cela est vrai, ça veut dire que les discours ont un effet. Les paroles ont des conséquences. C'est-à-dire que fustiger le contrôle au faciès sans s'interroger vraiment hein, sur les tenants et aboutissants de ce procédé, ce qui est fait quand même depuis très longtemps, c'est qu'on entend depuis très longtemps dans les médias des critiques hein, à cet égard, ça a des conséquences. Parce que si, en l'occurrence, ce garde, cet officier a eu peur d'être considéré comme un raciste potentiel à ce moment-là, c'est bien qu'il a été influencé par des discours sur ce sujet. Donc tout ce que nous disons, et là on revient un peu à nos discussions sur le courage, tout ce que nous disons peut avoir un effet, donc il faut peut-être faire très attention.
Oui, en fait, ce que ta contrariété, moi, me fait penser après la vague d'agressions sexuelles et de viols, notamment à Cologne, c'était en 2016, je crois. On s'était demandé, mais pourquoi est-ce que les plaintes sont sorties si tardivement et si lentement? Et il y avait eu un reportage, alors pour le coup, je ne me souviens pas exactement de la source, mais c'était une vidéo où il y avait des interviews de femmes qui avaient finalement porté plainte, et il y en avait quelques-unes qui disaient, ben moi, j'ai pas voulu porter plainte parce que je voulais pas qu'on me prenne pour raciste, parce que effectivement, les agresseurs étaient à peu près tous, aujourd'hui, on sait qu'ils étaient majoritairement marocains. Et algérien, je crois. Donc elle disait voilà texto, voilà j'ai pas voulu porter plainte parce que je voulais pas qu'on me prenne pour une raciste. Et ça, comme tu dis, je trouve qu'on s'interroge pas assez sur justement les conséquences des discours. Donc voilà que tu as bien résumé. Et en fait, les conséquences en fait sur les sur le différentiel coût-bénéfice. Parce que je pense, et sans trop me tromper, je pense que c'est pas si difficile de faire des formations sur les gardes, sur la police, etc. pour dire que effectivement, ce qu'on appelle le contrôle au faciès a une base
statistique.
Voilà,
statistique
effectivement, mais ils peuvent avoir des appréhensions différenciées selon les profils des gens. Mais c'est pas pour autant qu'il y a des règles de prudence à faire, etc. Et je pense que voilà, je pense qu'il y a un discours à faire passer que c'est justement au niveau des coûts et des bénéfices, c'est quand même plus grave d'avoir un attentat qui se produit que d'avoir un type qui est, je sais pas, mis dans une pièce attenante pendant une heure, le temps de faire des vérifications et ensuite s'il a rien, forcément, voilà, on le libère, etc. Et je pense que ça, c'est un discours, c'est des propos et c'est des faits, en fait. C'est des données qui sont mal, qui sont pas assez véhiculées et diffusées. Et je pense, en fait, qu'avec relativement peu d'efforts et de changements, voilà, sur le terrain, on pourrait arriver à résoudre ce problème. Parce que, je sais pas, statistiquement, c'est les discours qu'on peut entendre du genre « Ah bah oui, vous contrôlez pas pareil les petites mémées et que des types en survêtement qu'on l'air louche », ben oui, c'est normal en fait. Et ce que tu disais tout à l'heure sur la force des discours, etc., c'est, je pense, aussi un des problèmes aujourd'hui, c'est que on a trop peur. Je pense que les risques de en gros, voilà, du contrôle au faciès et tout sont relativement plus facilement contrôlables que les coûts qu'il y a à dire, voilà, c'est raciste et on le fait pas, quoi.
Oui, bien sûr. Écoute, Dieu t'entende, j'ai envie de dire.
Alors, c'est bien parce que ma contrariété reste un peu dans cette ambiance colorée, joyeuse, etc. Donc ça a été mis à mon attention par un article de Sabine Procoris, donc qui est philosophe et psychanalyste dans le magazine Transfuge, qui est un magazine culturel, qui était publié le 27 octobre et qui raconte comment Roman Polanski, le cinéaste, a fait il y a quelques jours, donc le 15 octobre, une cérémonie en Pologne pour remettre à titre posthume la médaille de juste parmi les nations, donc qui est décernée par le mémorial de la Shoah de Yad Vashem en Israël, à ceux qui ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc dans ce cas, en l'occurrence, c'est la famille, c'est le couple Stefania et Jan Bukala, qui est le couple de paysans polonais qui l'a accueilli quand il avait 9 ans pendant la guerre et qui l'a maternellement sauvé de l'extermination où sa mère elle n'a pas survécu. Et donc Sabine Procoris raconte que le lieu a été tenu secret. Et là c'est l'objet de ma contrariété, en fait, parce que le lieu a été tenu secret pour, en fait, c'est la convergence des catastrophes. C'est à la fois à cause de la remontée de l'antisémitisme en Pologne, qui, ça aussi, c'est quelque chose, peut-être qu'on parle pas assez, mais bref, c'est pas le sujet, voilà. Donc c'est la convergence des catastrophes entre la remontée de l'antisémitisme en Pologne et aussi le féminisme. Et ça, c'est encore une fois, peut-être que j'accorde trop d'importance au mot, mais peut-être qu'il faudrait lui trouver un autre, dans ce cas-là, un autre nom que féminisme, parce que c'est pas du féminisme. Pour moi, c'est une espèce de rage archaïque qui se donne un prétexte vertueux pour s'exprimer. Et quand je parle de convergence des catastrophes, c'est qu'en fait, dans ce féminisme-là, voilà, qui s'en prend à Polanski parce que il a violé. Il a violé Samantha Gamer quand elle avait 3 ans, avec tous les problèmes judiciaires qui ont suivi, etc. En fait, il y a une réactivation de vieux tropes antisémites. Donc voilà, le juif hypersexuel qui mange ou viole des enfants, etc. Et ce que rapporte Sabine Procoris, c'est qu'en fait à Joël Zinzevin, qui est le directeur du département des justes, on lui a posé la question. Eh oui, ça vous dérange pas que Polanski soit un serial violeur? Et là, il répond. Donc c'est Procoris qui le cite, et c'est la citation qui est stupéfiante pour employer un mot bien petit par rapport à la réalité. C'est personne, bien sûr, ne peut savoir à l'avance ce qui arrivera aux gens une fois devenus adultes.
Mais cela n'a rien à voir avec ce que les Bukala ont fait. Donc là, c'est Procoris qui commente, et je suis tout à fait d'accord avec son commentaire. C'est, en gros, voilà, on pouvait pas savoir qu'il allait devenir violeur. C'est de la mauvaise graine. Mais bon, voilà, il a été sauvé. Et Procoris, elle dit, en fait, la seule réponse que Joël Zinsevin aurait dû faire à un journaliste, c'est alors vous pensez qu'il aurait fallu gazer Roman Polanski quand il avait 9 ans? Et ça, c'est j'en reviens à la convergence des catastrophes, c'est tout ce qu'on entend avec le discours féministe que j'aime pas. Et pour finir, c'est ce que Procoris souligne, on a justement une réactivation, voilà, de tous les tropes antisémites, et c'est ce qu'on a entendu notamment au César. Il y a un troisième facteur qui arrive, parce que c'est à la fois les tropes antisémites, c'est à la fois le féminisme, que voilà, cette rage archaïque qui prend un prétexte virtueux pour s'exprimer, et le troisième problème c'est l'ignorance, et ça s'est concrétisé donc le soir des Césars 2019, devant je ne sais plus quelle salle où les Césars étaient organisés, il y avait des militantes féministes qui ont reçu en fait des gaz lacrymogènes par la police pour se disperser, parce que c'était une manifestation interdite. Donc elles se sont pris des gaz lacrymogènes par la police, parce que la manifestation était interdite, et elles ont dit celui qui aurait dû être gazé, c'est Polanski.
C'est vrai qu'on ne sait quoi répondre. Ouais. Enfin, c'est on ne sait même pas par quel bout prendre le problème. Mais ça. Enfin, moi, ce qui me frappe de toute façon, c'est cette espèce de surplus de ressentiment. Mais enfin, tout le monde peut être sujet au ressentiment. Mais là, c'est quasiment le ressentiment comme manière d'être. Et en effet, c'est un dévoiement total de la cause féministe. Mais moi, j'ai l'impression que ce sont des cas qui relèvent vraiment de la psychiatrie par moment. Et aussi parfois peut-être d'histoires personnelles tellement mal vécues, et peut-être à raison, des drames personnels, mais qui sont réinjectés ensuite dans un combat politique, et ça prend une ampleur complètement disproportionnée, à tel point qu'on dit des horreurs. Enfin,
c'est l'horreur de la bêtise. C'est la bêtise de l'horreur, et l'horreur de la bêtise qui s'exprime là-dedans.
Oui.
Et j'avais trouvé en préparant cet épisode une phrase de Nietzsche. C'est un fragment posthume de Nietzsche qui date de l'automne 1887. Et qui dit, plus médiocre, faible, soumis et lâche se montre un individu, plus il sera porté à délimiter le mal. Chez lui, le domaine du mal sera plus vaste. L'homme le plus bas le verra en toute chose.
Eh bien, sur cette citation de circonstance, nous concluons cette première partie et nous passons à la seconde. Nous accueillons aujourd'hui la journaliste Nora Hammadi.
Vous écoutez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté.
Nora Hammadi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous présentez Vox Pop sur Arte, une émission qui couvre les débats européens. Auparavant, vous avez travaillé dans la presse écrite, puis été rédactrice en chef et présentatrice des émissions Europe Hebdo et Enquête d'Europe sur Public Sénat. Vous êtes également rédactrice en chef du magazine Fumigène, je cite, un journal engagé, positif, indépendant et citoyen, dynamité par des banlieusards, militants associatifs, reporters, artistes et autres porte-voix. Parmi vos autres engagements, le projet ZEP, Zone d'expression prioritaire, un dispositif média innovant d'accompagnement des jeunes de 14 à 28 ans à l'expression. Vous allez souvent à la rencontre de jeunes des quartiers pour dialoguer avec eux et comprendre leur vision du monde. Dans une tribune co-signée dans Le Monde en octobre 2019, « Jusqu'où laisserons-nous passer la haine des musulmans ?», vous critiquiez l'antipathie de certains Français à l'égard des musulmans, qui produisaient, selon vous, leur mise à l'écart, et en appeliez à une unité retrouvée du pays. Nous vous invitons aujourd'hui pour évoquer la double question des banlieues et de l'islam, souvent liées dans l'imaginaire français, mais qui sont loin d'être identiques. Alors, pour commencer, une question simple. Qui êtes-vous ? Pouvez-vous vous présenter brièvement ? Quel est votre parcours ?
Alors, merci déjà pour cette invitation. Alors, qui je suis ? Vous avez donné quelques grandes lignes. J'ajouterais que j'ai été professeure dans une vie antérieure avant d'embrasser la carrière de journaliste, que je suis moi-même issue de quartiers populaires. J'ai grandi dans l'Essonne, dans le 91, dans une banlieue. le lieu du banc, tel que, voilà, c'est ce que ça veut dire. Depuis 20 ans, je suis engagée, comme vous l'avez rappelé, mais vous, voilà, c'est difficile d'être exhaustif sur toutes mes missions, sur ces questions-là et sur les questions, en fait, d'égalité réelle, d'inclusion sociale, de droits humains. Et donc, j'interviens en quartier populaire, effectivement, depuis une vingtaine d'années, que ce soit par le biais d'ateliers d'éducation aux médias et à l'information, par le biais, en fait, de ce qu'on pourrait appeler des cafés philo, mais aussi en établissement scolaire, en prison et en milieu rural.
Alors, si on se concentre sur votre engagement associatif dans les quartiers populaires, je voulais vous demander pourquoi vous aviez cet intérêt, ce que vous faisiez exactement là-bas et surtout, quel était votre diagnostic sur ces lieux.
On travaille, en fait, depuis des années à faire émerger, en fait, des récits. Et par ce biais-là, on pousse, en fait, des jeunes gens, beaucoup, enfin, jeunes gens, jeunes filles, ou même de manière un peu plus intergénérationnelle, tous ceux qui souhaitent se lancer dans ces travaux, soit d'écriture, soit de petits journalistes de terrain, on leur permet, en fait, de se raconter. Donc, on vient, que ce soit en service jeunesse, en maison de quartier, en centres sociaux, et on intervient, en fait, avec des groupes de jeunes, de moins jeunes, et on leur permet de produire leur propre récit. Voilà, racontez-nous, qui êtes-vous, de quoi vous voulez parler. Et de fait, bah, quand on les pousse à parler de leur réalité, alors ça peut être très drôle, c'est en ça, en fait, que mon engagement associatif vient de là, c'est que la manière dont on dépeint ces lieux du banc, cette banlieue, a toujours été, pour ma part, très éloignée de ce que j'y ai vécu. Voilà, on a toujours tendance à construire un récit qui est aussi, en fait, une construction médiatique au même titre que tout le reste, qui serait, en fait, des zones de non-droit, des zones qui seraient, voilà, aux prises avec le deal, avec l'islamisme, avec la violence, avec, voilà, la pauvreté. C'est vrai, cette réalité-là existe, mais c'est réducteur, en fait, que de ne représenter, en fait, ces espaces de vie que comme ça. Moi, j'y ai grandi, et c'est aussi, en fait, des espaces de mixité folle, c'est aussi, en fait, des espaces qui ont permis bah, des moments de joie absolue, des fêtes, des espaces où le rapport au sport, au corps, voilà, et à la solidarité qu'on peut avoir dans ces quartiers est absolument folle. Et c'est des récits, enfin, c'est des représentations qu'on ne retrouve pas dans ce qu'on peut avoir aujourd'hui et même hier, en fait, dans les médias. Et pour notre part, il était important collectivement que nous, issus, en fait, de ces quartiers qui avons connu cette réalité plurielle, diverse, on soit en capacité, en fait, de produire ces récits-là et de construire d'autres imaginaires, tout simplement, en disant que oui, c'est vrai, mais les zones rurales ont aussi des problématiques, tout comme les zones urbaines, les quartiers plus privilégiés portent aussi d'autres problématiques et qu'il est nécessaire, en fait, d'être pluraliste, divers, équilibré dans ce traitement-là. Et c'est de là, en fait, que vient cet engagement.
Est-ce que vous pensez que l'un des problèmes vient du fait que la République n'ait pas fait ou ne fasse pas assez pour les banlieues, et notamment dans les écoles? Et là, il y a beaucoup de divergences dans les discours. Il y a certains qui estiment qu'on y a trop investi, d'autres pas assez, d'autres encore qui pensent qu'on a mal investi. D'autres encore, comme le géographe Christophe Guilluy, constatent que les trajectoires d'ascension sociale dans les banlieues, donc des gens qui quittent ensuite celles-ci, ne sont pas rares, que ce sont plutôt des territoires de transit. Quelle est, vous, votre analyse là-dessus?
On n'a pas véritablement investi. Il suffit pour ça, en fait, de se baser sur des productions de rapports qui sont celles, en fait, de nos autorités, que ce soit ce qu'a pu produire la Cour des comptes depuis des années autour de ce qu'on appelle la politique de la ville, politique de la ville qui a été créée dans les années 80 et qui était censée jouer un petit peu un rôle d'emplâtre pour justement corriger ces inégalités, en fait, d'investissement dans les institutions. Quand vous citez l'école, je renvoie, en fait, à un rapport qui a été rendu il y a 2 ans, qui a été rédigé par le député républicain Cornu Gentil, entre autres, et qui pointe effectivement qu'un territoire comme la Seine-Saint-Denis, le 9-3 comme on dit, c'est dire à quel point la stigmatisation de ce territoire est aussi importante dans la manière dont on le désigne, tout dans leur rapport démontre, en fait, qu'il y a des disparités d'investissement fous, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans la police, que ce soit dans la justice, que ce soit dans la santé. Et c'est ça, en fait, qui est terrifiant quand on voit les chiffres portés, en fait, dans ce rapport, tout comme ils ont pu être portés auparavant, je vous le disais, par la Cour des comptes ou par tous ceux qui ont travaillé sur ces questions, c'est que aujourd'hui, un élève du 93 perd en moyenne une année de scolarité car ses professeurs, par manque de professeurs nommés, ou par ce qu'il a des professeurs pas remplacés. On pourra très bien arguer en face que effectivement on a mis en place des ZEP qui sont devenus des REP, puis des REP plus, sauf que de fait, on se rend compte, et je renvoie là-dessus à une étude que Thomas Piketty avait faite en 2004 sur des datas en fait de 98, c'est que pour pouvoir en fait avoir les mêmes taux de réussite scolaire entre les zones de réseau d'éducation prioritaire et hors réseau d'éducation prioritaire, il faudrait que d'un côté, on ait des classes à plus de 25, à budget constant, bien entendu, et de l'autre, des classes à 11. Quand vous avez un investissement qui est quasi du simple au double en termes de d'argent public entre un élève en fait du 93 et un élève de Paris Centre, on voit bien que les disparités elles existent. Pourquoi aujourd'hui on est obligé dans l'académie de Versailles ou dans l'académie de Créteil d'aller récupérer des profs qui ont 4,7 sur 20 de moyenne au concours? Voilà, parce qu'on sait très bien que dans ces zones-là, en fait, on a des difficultés à faire venir des gens qui sont capés et qui ont envie, en fait, d'y rester. C'est le cas pour les profs, c'est le cas pour les policiers, c'est le cas pour tous les services publics en général.
Pour les enseignants, à votre avis, est-ce qu'il serait une bonne idée de payer beaucoup plus, en fait, les personnes qui enseignent en banlieue, est-ce que ça permettrait d'attirer de très bons candidats? Parce qu'on paye un peu plus les enseignants qui sont en ZEP, mais là, je parle vraiment de quelque chose de substantiel.
Complètement, je vous rejoins complètement, c'est absolument fondamental. On voit à quel point, et c'est normal, moi j'ai enseigné, mais il s'avère que je viens en fait de ces quartiers et que je maîtrise les codes. Je me souviens très bien de mes collègues qui étaient en première nomination, j'étais pas en ZEP à l'époque, j'étais dans un lycée, voilà, avec une zone de chalandise où il y avait effectivement des gamins de quartier, Grigny, la Grande Borne, Évry, etc. Enfin voilà, donc il y avait souvent des difficultés en fait à maîtriser parfois ces classes. C'est réel, cette difficulté-là, elle existe. Parce que quand on est en fait, et c'était le cas par exemple de certains de mes collègues en salle des profs, on les voyait arriver en début d'année, ils avaient véritablement le sentiment en fait d'être jetés dans la gueule du loup. En plus, il faut le dire clairement, aujourd'hui, les modalités et les formations en fait dont bénéficient ces profs ne les préparent absolument pas à cette réalité-là. Donc, il faut là, dans ces quartiers-là, envoyer les profs, les policiers les plus capés. Donc, pour les attirer et pour les maintenir, il faut les payer plus. Donc, en fait, effectivement, on pourra objecter que c'est une rupture d'égalité en fait devant le traitement. Oui, c'est vrai. Mais au même titre que vous êtes dans des territoires qui souffrent d'une rupture d'égalité parce que la politique de la ville, je le disais tout à l'heure, a été créée dans les années 80 pour permettre de corriger un peu le fait que le droit commun ne s'y applique pas. Il n'y a pas les mêmes infrastructures, il n'y a pas les mêmes moyens qu'ailleurs. C'est le cas, c'est comme ça. Sauf que on a substitué ces politiques spécifiques au droit commun en se disant bon, écoutez, on va faire un peu plus, mais en fait finalement même en faisant un peu plus, on n'arrive pas à ce que devraient être les infrastructures nécessaires, les institutions, le nombre de fonctionnaires qu'il y a sur ces territoires. Donc pour les attirer, oui, à minima, faut les payer plus, mais faut aussi les former. On voit à quel point. Et on l'a vu cette semaine, en fait, avec la rentrée scolaire et la nécessité d'accompagner les enseignants dans l'hommage qui a été rendu nationalement à Samuel Paty. Beaucoup, et moi j'en ai autour de moi, et j'imagine que les gens qui nous écoutent en ont autour d'eux, beaucoup se sont sentis démunis. Et pour beaucoup de profs, c'est extrêmement dur de se retrouver, en fait, à porter cette parole-là, et puis juste à être dans une posture qui permet d'échanger avec la classe. Donc, là-dessus, il y a un travail à faire sur qui on met face à ces élèves et comment on les forme, comment on les accompagne. Et je pense que là-dessus, il y a une véritable révolution à faire au sein de l'éducation nationale qui continue à fonctionner avec des références des années 60, 70, mais entre-temps, les problématiques ont changé, nos élèves ont changé, et le contexte international et national a changé.
Oui, là, vous avez raison, c'est que des territoires différents peuvent être traités de façon différente. Enfin, ça ne me semble pas incongru. Alors, j'aimerais passer, si vous en êtes d'accord, à un autre de vos engagements. J'ai cité, quand je vous ai présenté la tribune que vous avez co-signée dans Le Monde en octobre 2019, « Jusqu'où laisserons-nous passer la haine des musulmans ?» J'aurais aimé que vous reveniez sur cette tribune et que vous nous expliquiez un petit peu quel était son contexte et son contenu, et si vous pensez que son constat s'applique encore aujourd'hui.
Alors, il faut revenir, en fait, avant cette tribune-là, il y en a eu une autre, 3 semaines avant, que nous avons été plusieurs à signer, qui avait d'ailleurs été signée par Omar Sy, par Nekfeu, par énormément, en fait, d'artistes, etc., qui avait fait grand bruit et qui avait posé cette question de la haine des musulmans, effectivement. Et de fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est que il s'avère que à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, une maman avait été conspuée dans le cadre en fait d'une sortie scolaire au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, et ça devant son fils qui s'était mis à pleurer et devant la classe qu'elle accompagnait. Voilà. Et de fait, ça nous a tous un petit peu heurtés au moment où on s'est dit tiens comment, enfin c'est absolument pas possible. Moi, j'interviens, en fait, vous le disiez régulièrement en milieu scolaire ou avec des associations. Pas plus tard que la semaine dernière, j'intervenais avec une association qui s'appelle Révèle et qui travaille, en fait, à l'émancipation de jeunes filles issues de milieux modestes, que ce soit de quartiers populaires ou de zones rurales, etc. Et il s'avère que dans cette 60aine de jeunes filles qui étaient accompagnées par des coachs pendant cette semaine-là, quelques-unes étaient voilées et m'ont fait part en fait de leurs difficultés et de leur peur. Voilà, elles avaient fait le choix de se voiler, choix qui est le leur, qui leur appartient. Mais de fait, aujourd'hui, 60% des femmes en France qui portent le voile déclarent avoir été agressées. Voilà, c'est des chiffres en fait qui sont ceux de l'Institut Montaigne et de la CNCDH dans une étude qui est parue il y a peu de temps. Donc la difficulté en fait là-dedans, pourquoi est-ce qu'on a pris position, c'est qu'il nous apparaissait absolument nécessaire de pointer le fait que on ne peut pas continuer à stigmatiser une partie de la population parce qu'on a peur en fait de l'islam politique tel qu'il est en train de se déployer en France et dans le monde. C'est une réalité qu'il y a une frange rigoriste, radicale, djihadiste de l'islam qui se développe, que ce soit en France, je le disais, en Europe, mais dans le Maghreb, mais en Afrique subsaharienne, mais en Afghanistan, au Pakistan, etc. Ce sont des mouvements mondiaux qui, malheureusement, en fait, sont aussi liés à un contexte international qui n'est pas nouveau, mais qu'on fait à chaque fois, je pense, mine de redécouvrir ou de découvrir, et sur lequel, en fait, on a tendance, dans des moments d'émotion qui sont légitimes, je pense à la mort de Samuel Paty, je pense à Charlie Hebdo, je pense aux attaques du Bataclan, des terrasses de Seine-Saint-Denis, etc. Je pense à l'attentat à Nice. Rendre nos compatriotes musulmans en fait responsables en disant vous devez vous désolidariser, qu'avez-vous fait de l'islam, etc. C'est complètement passer à côté du problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des formes de radicalisation, alors en quartier populaire, me direz-vous, mais aussi ailleurs. Je rappelle que l'islam est une des religions en France et dans le monde qui est le plus dynamique, avec un nombre de conversions qui est énorme, y compris chez des gens qui ont grandi dans une culture qui serait plutôt catholique, chrétienne ou protestante. Le dynamisme est à peu près similaire à celui qu'on peut avoir autour des évangéliques. C'est dire à quel point il est important. Donc, s'interroger en fait sur le rôle des musulmans là-dedans et les stigmatiser en disant aux femmes voilées qu'elles n'ont pas leur place dans la République, c'est alimenter en fait ce que ceux qui portent ce discours de haine vis-à-vis en fait des occidentaux ou des non-musulmans, etc., cherche à faire, à fracturer, à diviser. Moi, je le vois dans mes ateliers régulièrement. J'ai souvenir en fait d'une jeune fille qui me disait « Non mais madame, ils nous aiment pas. » Qu'est-ce que ça veut dire « ils nous aiment pas » cette configuration du discours dans le « eux » et le « nous », c'est là en fait qu'on se rend compte que ces islamistes radicaux ont gagné. Voilà. Parce que cette exclusion en fait qu'on crée par ces discours-là, elle finit par alimenter en fait une figure de rejet que ces plus jeunes interprètent et du coup finissent eux-mêmes par se ranger en fait dans l'esprit qu'ils ne font pas partie de la communauté nationale. Donc c'est pas évident hein, parce que tout ça est une ligne de crête. J'entends que effectivement souvent je dis que la figure de l'arabe, l'étranger en fait a été remplacé par la figure du musulman. Mais c'est pas en fracturant et en désignant en fait un bouc émissaire qui par ailleurs quand on prend ce qui se passe en fait à l'étranger, notamment en Afrique subsaharienne, dans le Maghreb, en Syrie, etc., les premiers à subir ces attentats terroristes sont les musulmans eux-mêmes. Et malheureusement, cette tribune en fait nous avait conduit à ça en disant stop, arrêtons. Là, on est juste en train d'alimenter une détestation en fait de tous et on tombe dans un piège qui est tendu par les terroristes. C'est ce qu'ils veulent en fait nous fracturer et on y arrive particulièrement. C'est pour ça que sur la question du séparatisme, pour revenir à la première partie de cet échange, la question en fait de la place de la République là-dedans. Je vais vous raconter une anecdote, mais moi, dans les années 90, j'étais dans mon quartier et on a vu petit à petit les associations d'éducation populaire, les structures en fait en bas d'immeubles qui nous permettaient d'avoir des activités fermées les unes après les autres en raison de coupes budgétaires. Mais il s'avère qu'au même moment, porté en fait par cette dimension de conquête internationale d'une frange en fait d'islam radical qui était voilà. Il fallait voir où on en était fin des années 80, début des années 90 en Algérie, au Maroc, en Afrique subsaharienne. Voilà, le GIA, les années noires en Algérie, on était en plein dedans. Il s'avère qu'à ce moment-là, une mosquée, qui n'est pas une mosquée en tant que telle, mais un groupuscule installe une salle de prière au-dessus en fait, du collège dans lequel je suis. Et tout ceci avec le blanc-seing, disons-le clairement, d'une municipalité qui n'a pas voulu voir, qui a fermé les yeux, voilà. Et de fait, on s'est retrouvé 4-5 ans plus tard avec un quartier qui a été absolument transformé. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un moment où la question religieuse n'existait pas. Moi, je suis athée. Je suis pas. Enfin, je viens d'une famille de culture arabo-musulmane, mais je suis complètement athée. C'était pas un sujet. Et 4 ans plus tard, en fait, mon quartier s'était complètement transformé. Et on avait des problématiques de non-mixité qui se posaient. Des femmes qui avaient décidé de porter la baïa, des hommes qui étaient en camis, etc., etc. Quand je vous dis qu'en fait, ça s'est fait avec le blanc-seing parfois des municipalités, c'est qu'on sait à quel point et on l'a vécu dans beaucoup de quartiers populaires en France. Il y a une forme de clientélisme qui s'est mis en place aussi sur ces questions. Et que à l'époque, et je commençais à militer quelques années plus tard, beaucoup de militants dans les quartiers disaient « Attention, voilà ce qui va se passer. Faites attention, ne faites pas ça, ne laissez pas faire, etc. etc. » Mettez en place des cours d'arabe pour éviter en fait que les jeunes gens qui veulent profiter de ces cours d'arabe aillent vers cette structure en fait qui ne représente rien et on ne sait pas qui y a derrière, etc. Et en fait, on n'a pas voulu voir. On a, dans certaines municipalités, cautionné. Dans certaines, on a même engagé certains de ces représentants, en fait, associatifs, cultuels, pour faire les grands frères. Donc, en fait, il est logique aujourd'hui que moi, quand on me parle de séparatisme, je m'agace, je m'irrite, je m'énerve parce que on prévenait dès les années 90 que ça allait se finir comme ça. On avait prévenu, on disait « attention, voilà ce qui va se passer, parce que vous ne voulez pas voir, parce que voilà ce qui se passe dans nos pays d'origine, quel qu'on soit ». Enfin voilà, moi je suis algérienne kabyle, voilà, dans les années 90, j'étais en Algérie, j'ai vu la décennie noire, ma famille, on sait très bien ce que ça veut dire en fait, ce terrorisme. Donc, de voir en même temps, en fait, qu'on avait supprimé les adultes, que les services jeunesse fermaient, et que les seuls qu'on voyait sur le terrain désormais, c'était ceux-là, on savait comment ça allait se terminer. La nature a horreur du vide, et c'est là qu'en fait, le séparatisme, c'est à mon sens pas celui des musulmans de ces quartiers ou des habitants de quartiers populaires, c'est que la République, en fait, n'est pas réelle dans ces quartiers. La promesse républicaine, elle a été trahie, et pas qu'une fois. Et de fait, on se retrouve aujourd'hui à payer en fait les fruits, les conséquences de cet aveuglement souvent, et on en fait porter en fait la responsabilité aux seuls musulmans. Or, et c'est pour ça que ce qui est en train de se monter, ce qu'on entend dans ce projet de loi sur le séparatisme, je pense, ne sera pas suffisant. C'est que tant qu'on ne remettra pas des services publics, des gros moyens, des structures d'éducation populaire, tant qu'on n'occupera pas ces jeunes, tant qu'on ne développera pas, on ne mettra pas en place des structures qui feront en sorte de développer l'esprit critique et de les faire s'interroger sur leur trajectoire, sur voilà, sur leur réalité, etc., on n'y arrivera pas.
Oui, j'entends bien ce que vous dites. Et la, quand vous décrivez la transformation de votre quartier, du quartier où vous travaillez, c'est, quand, c'est très frappant, et ça me fait penser à un ouvrage qui vient de sortir et qui s'appelle « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école » de Jean-Pierre Aubin, qui est un ancien inspecteur de l'éducation nationale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je voulais vous demander ce que vous pensez être la bonne solution à l'école, parce que ce que décrit hein, Monsieur Aubin, c'est un certain nombre de comportements qu'il a pu observer, ou de séparatisme évident, c'est-à-dire certains musulmans, évidemment pas tous, hein, mais qui ne veulent plus manger, par exemple, à la même table que les non-musulmans, ou qui ne veulent plus partager les robinets dans les toilettes à l'école avec les non-musulmans, enfin ce genre de choses qui vont quand même très loin. À votre avis, que faut-il faire ? Parce que, comme vous le dites, on peut discuter des responsabilités, et c'est une discussion qu'il faut avoir, mais il faut aussi trouver des actions concrètes.
Alors, pour intervenir en milieu scolaire depuis longtemps, je ne serais pas aussi pessimiste dans le constat que peut l'être M. Aubin. Je n'ai pas lu son ouvrage, mais la plupart des, enfin, les professeurs que j'ai autour de moi, les interventions que je suis amenée à faire très régulièrement, démontrent en fait que c'est vraiment des épiphénomènes, et je suis pas en train de minimiser la réalité de ce type de comportement, mais à un moment, prenons vraiment garde à ne pas monter en épingle en fait quelques cas d'un établissement à l'autre pour en faire une généralité. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, bon, la question du voile à l'école, elle pose quand même plus trop problème. C'est-à-dire que de manière automatique, les jeunes filles l'enlèvent et rentrent. La problématique qui se pose typiquement, c'est celles qui ne veulent pas l'enlever et qui du coup se retrouvent dans des écoles privées hors contrat, etc. Et on voit à quel point ça c'est problématique. Donc voilà. Après, clairement, là-dessus, quand je vous disais tout à l'heure, au-delà du constat, qu'est-ce qu'on fait pour les professeurs, qu'est-ce qu'on fait pour créer ça, l'institution scolaire n'est pas aidée en fait face à ça. Moi, j'interviens souvent dans des classes de copains, de profs, etc. Je suis marraine de plusieurs classes médias, etc. Où je travaille avec des professeurs documentalistes, et ils me sifflent dès qu'ils ont un besoin en fait de porter une parole un petit peu délicate, ou d'organiser des moments d'échange qui nécessitent en fait d'être un peu formés sur ces questions, que ce soit de laïcité, de manière d'échanger. Et ça, c'est vrai que voilà, moi avec mes structures, on l'est formé, voilà, et on forme. Et en fait, il y a une véritable demande aujourd'hui de la part des professeurs à être formés sur ces questions. Comment est-ce qu'on aborde les choses ? C'est pas simple, en fait. Est-ce qu'il faut montrer les caricatures de Charlie Hebdo tout de suite ? Moi, je sais que quand j'interviens, j'arrive jamais, en fait, de manière détournée, enfin, j'arrive jamais de manière frontale sur la question de la laïcité et de la religion et de Charlie. Je pose pas aux gamins la question, vous êtes Charlie ou pas Charlie. C'est pas comme ça que, enfin, tout du moins, c'est ma manière, c'est ma pédagogie. Mais je pense que là-dessus, il va falloir apprendre à travailler en collectif. Des structures qui travaillent sur ces questions, qui sont formées sur ces questions, il en existe énormément. Sauf que l'éducation nationale, et je ne parle pas des professeurs, a toujours tendance à fonctionner en vase clos. Et je pense qu'il va falloir ouvrir l'école. Voilà. Que ce soit en fait aux parents, parce que les parents vont aussi avoir besoin d'être accompagnés sur ces questions, que ce soit en fait recréer des structures d'éducation populaire, comme je le disais, former les professeurs, former les agents à toutes ces questions, parce qu'en fait souvent on se rend compte que les clashs adviennent quand il y a de l'incompréhension, des clichés et des représentations des deux côtés. Quand on a un tiers médian, enfin médiateur, ce qui est mon rôle quand je fais des ateliers en scolaire, je peux me permettre de dire des choses que un instituteur ou enfin un professeur des écoles ou un prof aurait du mal à dire, parce que devant ses élèves, il représente en quelque sorte l'institution scolaire, et que certains de ses élèves ne vont pas s'autoriser à porter une parole en fait qui pourrait être comprise ou mal interprétée, etc. C'est l'avantage d'avoir un tiers en fait et de faire cette intermédiation. Et je pense que là-dessus, il y a véritablement en fait des moyens énormes. Vous n'imaginez, moi j'ai la main, enfin je suis les mains dans le cambouis au quotidien avec des structures qui déploient en fait des savoir-faire absolument dingues. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ça ne passe jamais rarement en fait la cour d'école, quoi. On est en extérieur, on travaille avec des collectivités, on travaille avec des prisons, on travaille, mais passer l'école, c'est souvent en fait parce que les profs eux-mêmes luttent contre leur administration, parce que si on n'est pas labellisé, etc., enfin, ça, c'est extrêmement compliqué de rentrer dans l'école. Et en fait, je pense que l'école doit faire un véritable aggiornamento sur sa manière de fonctionner et sur la manière dont on accompagne les profs sur ces questions. Donc, oui, le constat, il est ce qu'il est. Pour boucler tout ça, j'irai pas jusqu'au constat de Monsieur Aubin sur ces questions. Je pense que c'est beaucoup moins grave qu'il n'y paraît. La question, en revanche, des caricatures de la liberté d'expression, du droit au blasphème, elle nécessite d'être martelée, expliquée et qu'on fasse véritablement de la pédagogie. Et je pense que cette pédagogie-là, il ne suffit pas d'avoir une parole verticale, comme on peut l'entendre aujourd'hui, en mode « c'est comme ça, c'est pas autrement ». On voit bien à quel point cette pédagogie, il faut la faire aussi vis-à-vis des pays avec lesquels on est aujourd'hui en conflit sur cette question, le boycott des produits français, les manifestations qu'on a pu avoir, etc. Ce droit au blasphème, il nécessite d'être expliqué, et il suffit pas en fait de décréter, et c'est ça en fait le plus difficile, c'est que pour faire de la pédagogie, il faut prendre le temps de cette pédagogie. Je pense qu'il est temps de reconvoquer une forme de nuance en fait autour de ces questions. Tout le monde a envie en fait de trouver une solution ensemble, les musulmans de sortir en fait de la stigmatisation qu'ils subissent et dont ils sont en fait les premières victimes, de l'autre côté sortir de la peur, sortir en fait des représentations, des clichés, recréer des ponts et faire en sorte que l'école en fait soit peut-être au centre, mais on peut peut-être pas tout demander à l'école. C'est en ça en fait que les collectivités, les élus doivent aussi en fait prendre leur part et faire en sorte que ce qu'on avait dans les années 70-80 et qui ont permis en fait à autant de ces enfants justement de prendre l'ascenseur social ou tout du moins l'escalier, et vous citiez Christophe Julie tout à l'heure, effectivement beaucoup en fait ce sont des zones de transit et vous avez raison, beaucoup sont encore en capacité aujourd'hui, et je le vois tous les jours, d'être des transfuges de classe et de sortir en fait de ces quartiers là et d'avoir des trajectoires qui sont brillantes. Pourquoi dans ce cas-là ne pas focaliser un petit peu plus là-dessus en termes de construction médiatique pour faire en sorte d'apaiser? Je pense que fondamentalement, et c'est peut-être ce qui nous sauvera, sortir de cette hystérisation en fait du débat, poser un peu plus les choses, assumer en fait la nuance et la complexité, la pensée complexe, comme dirait le président de la République, et c'est peut-être ce qui va nous permettre en fait de sortir de tout ça.
Je ne pourrais pas être plus d'accord, mais quand même pour revenir sur la question des amalgames et de la stigmatisation, moi je vous avoue qu'il y avait quelque chose qui m'avait assez beaucoup gêné dans votre tribu de 2019, mais pas seulement la vôtre, en fait qui me dérange en général dans le discours sur les femmes voilées. C'est en fait l'amalgame entre femmes voilées et musulmanes. Donc je m'explique, moi je comprends parfaitement qu'on veuille alerter sur la stigmatisation des femmes voilées, c'est intolérable en démocratie libérale, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un véritable problème, c'est qu'en fait il est aussi périlleux de laisser la culture musulmane à ses membres les plus orthodoxes et les plus conservateurs. Et la question du voile relève aussi d'un problème de conformisme et de pression sociale, et c'est une question qui divise les femmes musulmanes et a fortiori ex-musulmanes ou athées de culture musulmane, je ne sais pas comment on peut le dire. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce qui manque aussi dans le discours public, c'est que ces femmes-là sont invisibilisées et qu'en fait on présente le débat comme vous dites comme une polarisation en gros entre la République et ses populations immigrées, alors que voilà les populations immigrées ou d'origine immigrée sont beaucoup plus diverses qu'on le présente habituellement. Et l'autre question pour terminer, c'est que effectivement il faut replacer ces questions-là dans des problématiques internationales, etc. Et ce qu'on voit aujourd'hui à l'international, c'est que la sécularisation, voire jusqu'à l'athéisation des populations, bat son plein dans les pays musulmans. Sans compter en fait que le conflit entre libéraux et orthodoxes agite toutes les religions depuis leurs origines, islam y compris. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire?
Sur la question du voile, je pense que je serais un peu plus. J'ai pas de problème en fait avec le voile, et je me rends compte à quel point effectivement il y a une dimension de pression sociale chez certaines jeunes filles quand elles décident de l'adopter, parce que elles sont dans un milieu où il est mal vu de ne pas le porter. C'est vrai. Ça existe. D'autres, en fait, le choisissent parfois même contre leur propre famille, contre la vie de tous. Moi, je l'ai vu dans ma propre famille et ça a été des déchirements absolument fous. Voilà. Mais j'ai aussi vu, et c'est ça aussi qui est intéressant, que il y a des femmes, en fait, qui l'adoptent par véritable conviction, parce qu'elles sont pieuses, mais que elles se lancent dans des grandes études et elles ont des postes absolument incroyables. Elles sont extrêmement brillantes. Enfin, la question, enfin voilà, ça paraît fou, mais ça se pose même pas. Donc, je pense que là-dedans, je serais dans l'idée de respecter ce qu'elles souhaitent, et les laisser en fait avoir leur propre trajectoire et leur propre cheminement par rapport en fait à leur manière en fait de se vêtir, quoi. Il y a autant de trajectoires de femmes, de jeunes filles qui portent le voile que de situations en fait, et c'est ça qui est assez intéressant. Moi, j'ai souvenir d'une jeune fille avec qui j'ai fait mes études et qui était voilée, donc je vous parle de ça il y a plus de 20 ans, qui était une des meilleures de la promo de sciences politiques dans laquelle j'étais, et qui s'avère, voilà, parce qu'on a gardé le contact, qui l'a retirée à 35 ans. Voilà, c'est... Et il y a des jeunes filles, je suis intervenue beaucoup, en fait, dans des quartiers où vous avez des jeunes filles qui me disaient « Ouais, mais Nora, si on met pas le voile, ça veut dire qu'en fait... on est une mauvaise fille, etc. » Écoutez, je serais peut-être plus pragmatique en disant que si ce voile leur permet de continuer en fait à sortir, à faire des études, à faire du sport, et que c'est la condition sine qua non pour que elles puissent en fait avoir une once de liberté qui leur permet d'accéder à l'école, à l'instruction, et donc de fait à l'émancipation, et donc de planter une graine pour qu'elles fassent leur choix en toute conscience, ben je suis personne pour juger. Et en fait, c'est les mêmes problématiques qu'on peut avoir ensuite à l'étranger. Hein. Vous le disiez, on est dans un moment de sécularisation terrible. La pratique religieuse n'a jamais été... aussi faible en Occident, a fortiori en France. C'est le cas aussi beaucoup dans des pays qui sont pourtant pas laïcs. Et pourtant, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte, à l'image par exemple de ce qui se passe aux États-Unis ou dans ce qui se passe dans l'islam en France, en Europe, c'est la figure en fait presque des born again, quoi, des ce que Fethi Ben Slama appelle le surmusulman, c'est-à-dire que ceux qui pratiquent ont une pratique beaucoup plus rigoriste, beaucoup plus orthodoxe. Aurait-on vu, en fait, il y a encore quelques années, un groupuscule comme la Manif pour tous avoir pignon sur rue dans nos médias, dans le débat autour du mariage pour tous? Voilà, c'est une question que je me pose, c'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on retrouve de manière globale sur les pratiques religieuses aujourd'hui, mais ça nous renvoie, en fait, à la fin des idéologies. Voilà, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui alors que le bloc communiste s'est effondré, que depuis la chute du mur de Berlin, selon certains, on serait rentré dans un moment en fait de fin de l'histoire, ce qui n'est absolument pas vrai. On se rend bien compte aujourd'hui en fait que sur le marché des idéologies, dans un temps où le capitalisme sauvage en fait démontre et ce moment en fait de crise sanitaire est assez révélateur en fait des structures totalement inégalitaires et presque, enfin, notamment en fait sur la question des ressources, sur la question de notre planète, etc., de la dimension suicidaire en fait de notre civilisation, ce qu'on voit très bien, c'est la quête de sens. Et dans cette quête de sens aujourd'hui, quelle idéologie on met en face? Branko Milanović, qui est un économiste serbe qui travaille aux États-Unis, le dit bien en fait, sur le marché des idéologies aujourd'hui, il n'y a que le capitalisme, et ce capitalisme est sauvage, et de fait, qu'est-ce qui vous reste si vous voulez renverser en fait, et dans une dimension presque romantique si je puis dire, l'engagement, vous avez aujourd'hui l'engagement sur la question du climat, avec aussi une forme de radicalité chez certains. Vous avez les engagements féministes, vous avez l'engagement autour des questions de non-discrimination, etc., etc., et vous avez les quêtes religieuses. Et en fait, dans un monde, en fait, je vais pas ici citer Gramsci, le monde ancien et le monde nouveau qui tarde à arriver, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, mais on est peut-être aussi dans un moment comme celui-là où, en fait, voilà, il y a des modalités d'un monde nouveau qui sont en train de se créer, plus numérique, plus en réseau, etc., mais la quête de sens fait que, pour certains, qui ne sont pas forcément inclus, qui... voilà, sont radicalisés, enfin pas radicalisés, mais qui seraient dans une dynamique en fait de désaffiliation. Et ben en fait, à un moment, on se tourne vers une idéologie qu'on considère comme étant celle des victimes dans le monde, et c'est l'islam. Ça rencontre en fait quelque chose qui vient combler un vide. C'est aussi pour ça que c'est assez intéressant de voir que il y a énormément de convertis qui se tournent en fait et qui deviennent musulmans, et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que vraiment il faut se poser la question de la quête de sens de nos sociétés aujourd'hui.
Non, mais je partage assez absolument votre constat, mais peut-être moi j'aurais pas pour insister en fait sur mon point, c'est que effectivement moi non plus j'ai aucun problème, j'ai pas d'islamophobie comme on peut le formuler, mais le problème c'est que en fait nous les modérés et les libéraux, nous pouvons vivre avec des fanatiques et des extrémistes. Mais l'inverse n'est pas vrai. Il y a quand même un projet hégémonique dans l'islamisme, comme dans tout phénomène religieux extrémiste. Mais le fait est qu'aujourd'hui, historiquement, comme vous disiez au début de cette conversation, c'est l'islam et l'islamisme et l'islam politique qui a cette dynamique contemporaine. Et donc, est-ce que on se voile pas non plus la face? Je dis pas du tout que c'est votre position, mais est-ce qu'on se voile pas aussi la face en disant bon, il faut être ça va bien se passer, il faut être tolérant, etc. Le problème, c'est ce que je disais, c'est que les fanatiques et les extrémistes n'ont pas envie de vivre avec des libéraux et des modérés, et notamment ceux qui sont dans leur culture, comme vous disiez, et c'est attesté, c'est prouvé, il y a aucun souci là-dessus. Les premières victimes à plus de 80% du terrorisme et du fondamentalisme, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, des violences religieuses islamistes aujourd'hui sont musulmanes, et ça c'est voilà.
Après Il y a effectivement chez certains, mais je pense qu'ils ne sont pas si majoritaires, une volonté en fait de se couper de la nation parce qu'ils estiment en fait que la nation n'est pas à l'image de ce qu'elle devrait être pour leur permettre de vivre leur foi totalement. Et c'est oui, ça arrive. Et je ne suis pas certaine en fait qu'il y ait de solution miracle en fait. Et c'est pas ni en les enfermant comme on peut entendre en fait certains représentants politiques dire qu'il faudrait sortir des textes internationaux sur les droits humains pour créer un Guantanamo à la française qu'on va régler la question. Après, il faut rester dans le cadre de la loi. Et alors que on a quasi un projet de loi antiterroriste qui a été voté chaque année depuis 20 ans. Ce dispositif-là, en fait, il nous permet de véritablement lutter. Voilà, que ce soit si c'est de la question en fait terroriste dont on parle. Après, à un moment, c'est comment est-ce qu'on met les moyens pour faire en sorte de contrôler un peu les choses. Mais il n'en demeure pas moins qu'à mon sens, tant qu'on remet pas de l'éducation partout, tant qu'on fait pas en sorte en fait de contrer ces discours avec des contre-discours sur le terrain, au plus près des gens, faire en sorte aussi parfois de contrer des discours intrafamiliaux, hein, disons-le clairement. Moi, quand je vous dis que je travaille avec des associations et que j'ai des jeunes filles qui sont parfois en difficulté dans leur propre famille, on compose et puis on fait en sorte en fait de les accompagner pour que, sans être dans la rupture familiale, elles soient en capacité en fait de continuer une scolarité. Que voilà, c'est ça la réalité. C'est qu'en fait, à un moment, je suis pas certaine, et je renvoie au travail extraordinaire que fait le FFMED, qui est une association qui travaille aussi à l'émancipation des femmes en Méditerranée, qui a travaillé à la fois au Maghreb, en Italie, en Espagne, dans les Balkans et compagnie. La question de l'émancipation, quelle qu'elle soit, elle est compliquée à travailler si vous êtes dans une fracture nette et franche. Voilà. C'est que de fait, on en arrive à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une polarisation et quelque chose en fait qui nous fera pas avancer. Donc là-dedans, vous rappelez le cadre de la loi. Il y a pas de clientélisme ni de négo possible, hein, si je puis dire. Et donc de fait, ça veut dire que au niveau des institutions, il faut être assez clair. Mais en fait. Sur cette question de la pratique religieuse et de la nécessité en fait de laisser les gens pratiquer, c'est bien ça le problème, c'est que tant que on aura aujourd'hui et prenons les choses clairement, un pays que ce soit l'Arabie Saoudite ou le Qatar qu'on a laissé investir dans nos quartiers populaires. Je vous renvoie en fait à ce qui s'est passé sous Nicolas Sarkozy. Il devait quand même y avoir un fonds qatari qui devait investir dans nos quartiers. Tant qu'on continuera effectivement à avoir des puissances étrangères qui viennent et qui profitent en fait de l'abandon de ces zones pour venir investir pour faire du soft power, bon, bah il faudra pas s'étonner. Voilà. Et si en plus en même temps on n'a pas, on se donne pas les moyens en fait de mettre sur le terrain des gens en fait qui portent ces valeurs de mixité, de vivre ensemble, telles qu'on les voilà, de laïcité telles qu'on les entend. À un moment, va pas falloir s'étonner qu'on continue à avoir ce phénomène. Et quand je vous disais qu'il faut être pragmatique, c'est que là, il n'y a pas de coup de baguette magique. C'est-à-dire que ce qu'on paye depuis 40 ans, on va pas mettre 2 ans à récupérer la situation. Et ça, faut en être certain. On a laissé 2 générations en fait aux prises avec cette réalité, enfin 2 voire plus, hein, si on parle en fait de la République inachevée dans certaines zones de France. En fait, à un moment, il va falloir revenir, remettre des gens sur le terrain, accompagner l'école, les structures associatives, et en fait, reprendre ce terrain qu'on a abandonné il y a déjà 30 ou 40 ans, quoi. Et ça va, effectivement, ça va être long.
Eh bien, sur ces mots réalistes et concrets, nous devons conclure. Nora Hammadi, merci beaucoup d'avoir rejoint les Contrariantes aujourd'hui. Et rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines pour le prochain numéro.
Merci de votre invitation.
C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les 2 semaines sur lepoint.fr, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Google Podcasts. Le Point.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.